Ce jour-là, j'ai eu un immense choc, en fait. J'en ai eu un si grand que je n'en ai jamais parlé.
En fait, adolescente, je me sentais déplacée, comme un geste ou comme une parole peuvent être déplacées.
En famille, en amour, au travail, en société, trouve-t-on jamais tout à fait sa place ? Ce sentiment d'être en adéquation avec soi-même, de se rapprocher de la personne que l'on a l'ambition d'être. Une carrière pertinente qui nous rend heureux, un entourage qui nous aime pour ce que nous sommes, une vie qui nous ressemble ou tout du moins nous trahisse le moins possible. Parfois, ce sentiment de cohérence arrive vite, parfois plus tard, quelquefois jamais. Le plus souvent, il se déplace par vagues. Je suis Marion Ruggieri et dans le podcast Les Vagues, un tout nouveau podcast de Elle, j'interrogerai des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois, mais aussi le moment où elles se sont senties déplacées. Je me rendrai chez elles ou dans un lieu cher à leurs yeux pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit « Là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être et c'est moi ». Découvrez et écoutez Les Vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Elle débrief.
Elle débrief.
Élodie Petit
et Elisa Casson de Elle
décryptent l'actualité la plus futile
avec tout le sérieux qu'elle mérite.
Bonjour à tous et bienvenue dans Elle débrief, le podcast qui ressemble à vos discussions entre amis. Et justement, aujourd'hui, on va discuter presque entre vieilles copines, vous allez comprendre. Je suis Élodie Petit, rédactrice en chef adjointe de Elle.fr. Et hélas, cette semaine, mon acolyte Elisa Casson n'a pas pu se joindre à moi, Fashion Week oblige. À l'heure où j'enregistre cet épisode, elle est dans les backstage d'un défilé en train de suivre la préparation cheveux et make-up des mannequins pour vous dénicher les nouvelles tendances beauté. Mais je ne suis pas seule aujourd'hui, j'ai une invitée de marque, vous la connaissez certainement déjà et depuis longtemps, si comme moi en 2008, vous surfiez sur la blogosphère. Elle s'y connaît très bien en Fashion Week, elle aussi, c'était une figure incontournable de la mode. Et désormais, c'est dans la beauté qu'elle s'illustre, mais pas que. C'est une des blogueuses françaises historiques. Vous savez, les blogueuses, c'était avant les influenceuses. Il s'agit de Garance Doré, et je vais la retrouver de ce pas.
Salut Garance.
Salut Elodie, ça va?
Ouais. Garance, aujourd'hui, on se trouve chez Merci, dans un petit appartement à côté de la
petite
boutique.
Petite, tu le trouves petit, toi.
C'est un très bel appartement, ouais. Très grand et baigné de lumière. On adore ça.
C'est magnifique, ouais.
Tu es là aujourd'hui pour présenter à la France ta marque de beauté, Doré.
Voilà, c'est ça.
Et on va en parler, évidemment, mais avant, j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours. Ça fait longtemps qu'on te connaît. N'hésite pas à me dire si je dis des bêtises.
D'accord, ne t'inquiète pas, je n'hésiterai pas.
Okay. Ouais. Il paraît qu'elle est très bavarde, donc ça peut durer très longtemps.
Ça peut durer très longtemps et je m'excuse d'avance pour les Jean-Claude Vandamisme.
On
peut dire ça comme ça. Parce que je déteste, mais ça fait que presque 15 ans que je vis à l'étranger et parfois il y a des mots, j'ai juste oublié comment dire. C'est
terrible.
Ah,
tu fais partie de ces gens-là qui cherchent.
Ah non, mais.
Juste comment on dit en français déjà.
Mais oui.
Ok.
Mais c'est horrible, j'ai jamais voulu être ça, mais je vis avec un anglais, je. Voilà
tu
quoi.
Tu pratiques pas assez le français.
Je pratique pas assez le français.
Oh, ben on va voir ça.
Ouais, exactement.
Alors, Garance, tu vois, jour en Corse, ça on sait tous.
Ouais.
C'est là que tu passes tes premières années, mais c'est à Marseille que tu fais tes débuts d'illustratrice en freelance.
Mais tu connais tout.
J'ai fait quelques recherches.
Mais ouais, oui, exactement. J'ai commencé à 27 ans.
Et en 2006, tu ouvres le blog.
Ouais.
Le point de départ pour lequel on te connaît tous, Garance Doré, une fille comme moi.
Au temps préhistorique des blogs.
Exactement, ouais. Les dinoblogs, comme dit Didi.
Une
autre blogueuse
j'adore
de la
Didi.
Même époque qui disait ça. Et c'est un lieu à toi dans lequel tu dessines... ce que tu as dans la tête, tout ce que tes clientes ne te demandent pas, c'est ça?
Ouais, les peu de clientes que j'avais en tout cas.
C'était quoi tes clients à l'époque?
Ben, en fait, au début, quand j'ai lancé mon blog, j'essayais de travailler pour les magazines de beauté, les magazines, tu sais, genre Biba et tout ça, quoi. Ouais, donc c'était un peu ça quand j'y arrivais.
Ça prenait doucement?
ça aurait pris, je pense que si j'avais pas eu le blog, non, je pense que j'aurais atteint le seuil où je devais tout lâcher et tout, parce que tu gagnes pas très bien ta vie en tant qu'illustrateur. Il faut avoir des jobs en publicité et tout. Évidemment, les magazines, c'était, je me rappelle à l'époque, j'étais tellement heureuse de décrocher un job et après ils me disaient la paye et c'était genre 200 euros.
Ouais.
Et moi, j'avais travaillé genre des heures dessus. Donc à un moment, je me suis dit, ton projet professionnel ne semble pas très viable. Et donc ça aurait pris des années, mais bon, après, il s'est passé cette histoire de blog.
Ah oui. Mm-hmm. Et justement, quelques mois après ça, tu montes à la capitale, c'est ça le rêve
Ouais, la terreur, tu te rends pas compte.
Ah ouais ?
Ah ouais, ouais, ouais. C'était, je sais pas, c'est peut-être différent maintenant, mais j'ai jamais eu envie vraiment de monter à Paris, comme on dit, quand on est en Corse. Ouais. J'avais un peu peur, la ville me semblait un peu grise, un peu. Enfin, tu vois, tout ce que tu peux imaginer quand t'as grandi dans une petite ville de province souriante où le soleil brille et tout ça, quoi. Mais je l'ai fait avec cette espèce, comme dans les films, tu sais, quand les gens disent allez, j'y vais, je risque le tout pour le tout et tout ça. J'avais cette espèce d'esprit conquérant, j'avais envie de faire quelque chose de ma vie. Et j'ai lancé mon blog, j'ai commencé à Marseille. Et quelques mois après, quand j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se passait, c'est un petit peu comme si le destin avait frappé à ma porte et que j'avais pas le droit de dire non. Et que si j'avais dit non à ce moment-là, que j'étais pas montée à Paris et tout ça, c'était mon destin qui a. Je l'ai senti, il y a eu un espèce de truc intuitif comme ça, alors qu'à l'époque j'étais le contraire d'intuitif. Mais je l'ai fait et j'ai. Comment on appelle ça
Premier anglicisme.
Ouais, désolé. Against everybody. Contre l'avis de tout le monde. Ouais. C'est-à-dire, j'ai même pas posé la question, j'ai dit je pars. Et j'ai tout quitté. C'était marrant.
Sur ton blog, donc. Il y a des illustrations de mode. Il y a un trait que moi, je trouve qu'on reconnaissait très facilement.
Ouais.
Des femmes, des silhouettes, c'est assez élégant. Et il y a un ton aussi, parce que tu écris, c'est pas que des illustrations. Il y a un ton qui est à la fois dans l'analyse, mais un peu frivole, rigolo, léger. On apprend et on rigole en même temps. Et t'as cette catchphrase où tu dis une fille comme moi.
À l'époque, ouais.
Ouais, exactement. Ouais. Pourquoi cette phrase ?
Eh ben, c'était exactement ce que ça décrivait, c'est-à-dire que moi, j'adorais les magazines, la mode, la beauté, toutes ces choses-là, mais j'étais pas une fille comme dans les magazines. Et j'étais vraiment la fille de tous les jours, et j'avais envie de dire ça. C'est toujours quelque chose que j'ai eu envie de dire. D'ailleurs, c'est un petit peu décalé maintenant avec les influenceuses qui sont devenues... Et moi-même, par la suite, je suis devenue un petit peu moins accessible parce que j'avais accès à toutes ces choses et que j'étais plus une fille comme moi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai enlevé le titre. À un moment, je me suis dit « ça colle plus, là
».
Et là, j'ai commencé dans une espèce de dissonance cognitive qui s'est après répandue dans toute ma vie.
Ah, carrément.
Ouais.
On va y revenir. Et ensuite, il y a les photos qui s'ajoutent.
Oui. Oui. Ouais.
Alors, je me rappelle à l'époque, avec mes copines, on se disait, ah, Garance, c'est elle qui a lancé telle personne en la prenant en photo. Enfin, tu vois, il y avait ce fantasme de. Ouais. Si t'es sur le blog de Garance, ok, tu comptes. Je pense à Margot Lundberg, par exemple, que t'avais prise en photo.
Ouais, ouais, ouais.
Et on se disait, ah, elle a été découverte par Garance.
Ouais. Mais c'est vrai, enfin, je veux dire, tu sais ce qui est intéressant ? Je peux te tutoyer ?
Oui, bien sûr.
Tu sais ce qui est intéressant avec les années qui passent, c'est que tu es enfin capable de te dire, effectivement, oui, j'ai fait ça. J'ai changé des choses dans l'industrie de la mode. À l'époque, j'étais non seulement, j'étais trop, comment on dit, self-conscious. J'étais pas bien dans ma... C'est même pas que j'étais pas bien dans ma peau, mais je posais trop de questions. J'ai toujours été trop dans ma tête. Et je ne reconnaissais pas les choses que je faisais. Je disais, mais non, enfin, voyons, c'est pas moi, et tout ça. Et maintenant, en regardant en arrière, oui, j'ai lancé des gens, des carrières. Il y a même des gens que j'ai lancés. Et après, je me suis dit, oh, j'aurais pas dû, c'est des cons. Ah.
J'aimerais tellement avoir des noms, mais bon. Mais alors, attends, ça veut dire que tu avais le syndrome de l'imposteur un peu ?
Bien sûr.
Ah ouais.
Mais j'avais tout, moi. J'ai tout. J'ai tout ce que tu peux imaginer. Toutes les bâtons que tu peux te mettre dans les roues, je les avais et je les ai toujours. D'ailleurs.
Ah, j'avais demandé si tu t'en étais défait, mais non ?
Ah non, pas du tout. Non, certains, oui. Déjà, déménager aux États-Unis, ça m'a aidé à sortir de mon esprit critique très français qui m'empêchait d'avancer et tout ça. Dès que je rentre en France, je le retrouve. C'est comme des vêtements qu'on a laissés. Ça a un petit peu évolué, mais parce que je viens pas de Paris, je viens de la Corse. Donc c'est encore plus un espèce de regard sur nous qui est très présent, quoi, qui est là tout le temps. Donc on apprend à grandir sous ce regard-là. Et puis il y a aussi, je pense, le côté très ironique, très moqueur des Français et tout ça, que si on internalise, c'est très difficile d'avancer. Donc il y a eu ça, où déménager, puis rencontrer des gens qui sont tellement... Ernest, que tu sais, les Américains, c'est tout est bien. Si quelqu'un fait quelque chose et que ça marche, ben bravo pour lui. On n'est pas du tout dans la même
culture de la
réussite. Voilà, la culture de la réussite qui m'a quand même aidée à sortir un peu de mon obsession pour l'humilité. Et puis voilà. Et donc il y a des choses que j'ai dépassées. Mais hier encore, j'étais en train de parler à une amie avec qui je parle vachement de business et tout, parce qu'elle a une boîte, un petit peu comme moi, elle est beaucoup plus avancée que moi. Et je disais, ah non, mais là, il faut que je voie un coach. Tu vois, j'ai trop de pensées limitantes, comment on dit en français, limitantes, tu dis ça qui me limite. Ils me disent, non, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Et donc, à chaque étape de la vie, je crois qu'on retrouve... on peut se débarrasser des choses, mais elles reviennent. Il faut faire attention à ça.
Un travail perpétuel.
Ouais, c'est un travail. Mais c'est ça, la vérité. C'est pour ça que moi, ça m'intéresse beaucoup, le développement personnel, la psychologie et tout. Et cette idée qu'on peut être guéri du jour au lendemain parce qu'on a fait, on a trouvé le yoga ou on a fait une thérapie ou tout ça. Non, c'est un travail constant. C'est un peu comme la gym, en fait. On peut pas le faire une fois et après c'est fini, quoi. Ouais. Donc voilà, donc oui, toujours, même maintenant à 47 ans, j'ai toujours des choses à travailler, à régler et tout ça. C'est normal. Je pense que c'est pareil pour tout le monde.
Je reviens au blog.
Pardon, t'as vu, non, je t'ai dit, je parle beaucoup.
Mais moi aussi. À cette époque-là, t'as plusieurs milliers de lecteurs, lectrices par jour sur le blog.
Oui.
C'est le moment où la mode commence tout doucement à s'intéresser au web.
Oui.
Et la séisme à la Fashion Week de Milan. Tu es invitée en front row au défilé Dolce & Gabbana avec d'autres blogueurs.
Ouais, enfin là, les gens ils ne me voient pas, mais je suis en train de, comment dire, rouler mes yeux.
C'est
vrai. Tu sais, emoji roll eye.
Je me rappelle, c'était vraiment quelque chose à l'époque.
Mais
un
écoute, tu sais
quoi,
mais c'était pas du tout ça. Parce que en fait... Ça faisait des saisons et des saisons qu'on était invités. Moi, j'étais déjà en front row, mais depuis vachement longtemps, quoi. Pas tous les défilés. Mais parce qu'ils sont géniaux, Dolce & Gabbana, parce qu'ils en ont fait un événement de presse. Ouais. Et moi, j'avais la rage parce que, en fait, j'avais écrit là-dessus, mais je les adore. Et en plus, j'adore leur mode. Enfin, j'aime bien leur côté très classique. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé leur défilé, mais... Non, ce qu'ils ont fait, moi, ça m'avait énervé parce qu'ils nous ont mis des ordinateurs.
Oui.
Genre, excuse-moi, quoi. Plus personne, enfin, je suis jamais allée à une Fashion Week avec mon ordinateur. Donc, ils nous ont utilisé, enfin, tu vois, pour faire un événement de presse.
Ouais.
Et ils nous avaient pas prévenus. On avait senti qu'il se passait un truc parce que, je sais, quand t'es assis en front row, il y a différents stades d'assis en front row. Donc, moi, j'étais assise en front row, mais personne ne s'occupait de moi. J'avais mon ticket, je me rendais au défilé, et puis voilà. Ensuite, tu as le stade assis en front row, où on t'habille. On te dit, vous allez être assise en front row, on vous envoie un chauffeur, passez au showroom avant, on vous habille et tout ça. Et ça, c'était un stade que je ne connaissais pas. Vous allez être assis en front row, je ne crois pas qu'ils nous avaient habillés, je pense qu'ils avaient quand même été assez malins et tout, mais on a été complètement surpris. Après, effectivement... ça fait parler de nous et peut-être que pour le public, ça fait ouvrir des yeux sur des choses. Mais en tout cas, du côté intérieur, c'était assez drôle. Et moi, j'étais un peu vénère parce que j'avais pas envie d'être assise en front row avec un ordinateur, quoi.
Mais vous avez demandé quoi sur l'ordi
Mais rien. En plus, les ordis, ils étaient même pas calés
juste
sur Internet.
Là, ouais.
Mais qu'est-ce qu'on allait faire, quoi? Tweeter? Tu vois, je veux dire, on avait nos téléphones. C'était trop drôle. Mais bon, ça, c'est la presse. C'est les comment on appelle ça? Les événements comme ça où on met un spotlight sur les gens. Et c'était très bien fait, hein, pour eux. Ils ont bien fait.
Ouais.
Et en plus, ils ont fait quelque chose que finalement beaucoup de marques faisaient depuis très longtemps, c'est-à-dire d'inviter des blogueurs et en plus de les inviter, de les honorer en leur donnant une place au front row. tout le monde le faisait, sauf que eux, ils ont dit, c'est nous les premiers. Et ouais. En fait, c'était, tu sais, c'est comme les gens qui mettent un drapeau sur la lune, quoi. Tu vois, c'est genre, allez, mais là, c'est nous, maintenant, nous, on a la presse et tout, on l'a fait. On accepte Internet, on est des pionniers et tout, machin. Ils ont très bien fait leur com, et donc je respecte.
Ouais. Non, et puis surtout, c'était le moment où ils se sont dit, voilà, les gens qu'on écoute dans la mode, c'est pas que la presse, c'est les gens... dont c'est pas le métier, mais qui en ont fait leur spécialité. C'était ça aussi, ouais. Les blogueurs. C'était ouais. Vraiment des gens qui écrivaient sur leur temps libre, en plus de leur job. Alors, il y en a plein qui en ont fait ouais. Leur métier à plein temps, mais qui sont devenus prescripteurs mm-hmm. Et qui ont été entendus par la mode. Mm-hmm. Et c'était quelque chose. Et je me rappelle aussi, mais c'était un peu après, de Tavi Jevinson.
Oui, Gevinson.
Oui.
Ouais, ouais.
Avec son nœud dans ouais, les cheveux ouais. Qui était au premier rang de
Dior.
Mais
voilà, ça aussi,
et ça aussi, ça avait fait parler. Elle histoires. Avait 13 ans.
Ouais. Ouais, ouais. C'était aussi à l'époque où les choses commençaient à devenir virales et tout ça. Ouais. Donc c'est assez drôle. Ouais. C'est bien hein, de pouvoir
ça
utiliser. Ouais, voilà. Ça, ouais,
maintenant,
ça
c'est une évidence de voir les influenceurs. On va en parler après parce que ouais. Depuis tout à l'heure, j'utilise le mot blogueur parce que c'était vraiment du blog.
Oui, oui, parce que influenceur, ça n'existait pas à l'époque. Exactement. Et les gens comme moi. Moi, je ne me prenais jamais en photo moi-même. J'avais jamais fait un selfie à l'époque, quoi. Ça n'existait ah ouais. Pas. Et l'influence, c'est ça. C'est quand la caméra s'est retournée sur les gens eux-mêmes, quoi. Ouais. C'est là que ça a commencé. C'était plus des blogueurs, voilà. Il y avait des gens qui avaient commencé, comme je ne sais pas si tu la suivais, que j'adore, Géraldine Punky.
Oui.
Qui se prenait en photo dans ses tenues et tout. Elle avait commencé à faire des trucs comme ça. Mais c'était les balbutiements, quoi.
Ouais.
Ouais.
Et puis t'avais aussi, je reparle de Didi, décidément,
ouais.
Où tu sais, elle avait tout le temps un masque quand elle se prenait en photo.
Mais oui, elle mettait ça un masque me dit quelque d'animal. Chose, ouais. Tu vois, il y avait ce truc-là, ouais. On se montrait pas à
c'était
l'époque.
C'était pudique.
Ouais. Elle est trop sympa, Didi.
On l'embrasse, juste
ouais,
qu'elle nous
on l'embrasse,
écoute.
Ouais.
Alors, petit saut dans le temps, tu rencontres l'amour et tu t'installes à New York.
Effectivement.
Tu continues ton blog, mais là t'es plus seule. Là c'est une entreprise. Tu
ouais.
Deviens le studio doré.
Ouais.
Vous êtes 6, 7, 8, je sais
on
pas.
On a commencé êtes... à 2 et on a fini à 25 à peu près.
À ouais. 25
ouais, 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 oh. Ouais, 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 ouais.
Mais
ouais.
Alors qu'est-ce qu'ils faisaient tous ?
Alors on était un studio créatif, c'est-à-dire qu'on créait des campagnes pour les marques. Bon, moi j'avais aussi mon studio de photos. Moi, si tu veux, à partir de ma carrière de street style, je suis devenue en fait photographe sérieuse, quoi, agent. Ouais. Je shootais des campagnes pour des marques de mode surtout.
Ouais.
Donc j'avais un studio qui allait avec ça, avec un éditeur et tout. Donc tu avais tout ce côté-là. Et puis tu avais le côté où les marques ont commencé à nous dire, ben, si vous faites les photos, est-ce que vous pouvez aussi faire la campagne ? Est-ce que vous pouvez aussi faire le concept ? Parce que j'avais des bonnes idées à l'époque sur ce... J'avais, si tu veux, je pense que dans notre vie, en tant que créatif, tu vois ça beaucoup avec les designers de mode, il y a un moment où on comprend notre époque. Il y a un moment dans la vie où tu captures le zeitgeist, comme ça, tu sais exactement ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce que les gens veulent et tout. Et moi, j'ai eu ce moment-là, c'est assez chouette. Et il faut toujours savoir que ça finit par partir, c'est normal. Et qu'il faut non seulement en profiter, mais avoir quand même cette espèce de recul, de se dire, je ne serai pas toujours... Je crois que c'est Jean-Paul Gaultier qui avait dit quelque chose de merveilleux sur ça. Il a dit, quelqu'un lui a demandé, quel serait votre message pour un jeune créateur aujourd'hui ? Et il était un petit peu ringard à l'époque, enfin, ce qu'on peut imaginer de ringard, et moi, j'y crois pas à ça, mais... et il a dit à ce jeune créateur que j'étais un jour ce qu'il était et qu'il sera un jour ce que je suis.
Okay.
Et donc, c'est cette ouais. Idée de vraiment... Parce que Jean-Paul Gaultier, c'était pareil. À un moment, les jeunes qui écoutent ne vont pas s'en rappeler, c'était incroyable ce qu'il faisait. Les gens en mouraient, ils adoraient. Mmh. Et puis après, il est devenu un petit peu comme ça dans le paysage. C'était un classique et tout, mais ça n'avait plus rien à voir. Et j'ai trouvé que c'était très sage, en fait, de dire ça et d'en être conscient.
Et toi, c'était quoi ton...
Mais moi, c'était mon époque où je comprenais tout.
C'était New York ?
C'était New York et je savais ce qu'il fallait faire. Tu vois, ça me venait direct comme ça. Et donc les gens s'intéressaient et tout ce que je faisais, ça leur plaisait, ça marchait, toutes les campagnes marchaient bien, il y avait tout un truc comme ça. Et donc à partir de là, effectivement, j'ai créé un studio Puis après, j'ai commencé à me mettre des bâtons dans les roues, parce que c'était trop magique.
Comme quoi ?
Bah ouais, c'est ça, non, c'était trop bien, je pouvais pas. Tu vois, il fallait absolument que je me sabote un peu. Ouais.
T'as quand même fait beaucoup de choses. T'as sorti un livre.
Ouais.
T'avais un podcast.
J'avais un podcast. Pardon et maintenant, French. J'en ai un nouveau qui est génial. Ouais. Je vous conseille de l'écouter.
Le rendez-vous.
Voilà, c'est ça.
J'ai dit tout à l'heure que j'avais pas encore
écouté. Il est en anglais, par contre, je suis désolée, okay. Mais au moins, j'aurais pas le truc de Jean-Claude Van Damme.
Alors, pour moi, c'est ta touche. C'est-à-dire que là, on t'entend parler en français, mais pour moi, Garance Dorée, c'est toujours en anglais avec le petit accent, la petite touche Frenchie dedans. Mais j'ai le souvenir de Pardon My French,
ouais.
Où c'était rigolo. C'était avec les gens du studio Doré.
Non, alors en fait, il y avait deux trucs. Il y avait des interviews avec des genre célébrités et tout.
Ouais.
Et après, il y avait le côté studio où on parlait. Voilà,
mais c'était ça que j'adorais.
Mais bien sûr, mais c'était ça.
Je vous imaginais dans un canapé en train de raconter vos histoires.
Mais c'était génial. Et tu sais quoi, c'était ce qui marchait le mieux.
Mais ça
m'étonne
pas.
Donc en fait, arrête tout de suite de m'interviewer et va faire des épisodes avec tes copines.
J'en rêve.
Ouais. Bon, le problème, c'est que maintenant, tout le monde fait ça, évidemment. Ouais. Et que ça confirme ce que je disais juste. Je faisais tout avant tout le monde, c'est-à-dire j'avais... Et maintenant, je ne pense pas du tout être au même truc. Je pense que c'est des choses qui tombent à un moment sur une personne. Et je faisais tout... Tu peux regarder en arrière. Donc, j'ai fait un podcast genre 10 ans avant que, que ça devienne super mainstream et tout ça. Bon, le truc du blog, il y avait plein de trucs comme ça et c'était intéressant. Et maintenant, avec le... comme je suis sortie de cette bulle, je peux voir et me retourner et me dire « Ah ouais, non, j'ai fait ça, j'ai créé des trucs, j'avais un talent de visionnaire et tout. » Je pense que je l'ai encore, mais pas aussi connectée à mon époque, parce que j'en ai un peu... J'ai vieilli, déjà, donc c'est normal. Et puis, j'en ai un peu aussi rien à foutre, ce qui est aussi l'un des trucs qui se passe quand tu vieillis, c'est que t'en as un peu plus rien à foutre.
Et justement, comme tu étais toujours dans le côté précurseur, tu as essuyé les plâtres à l'époque
Mais ouais, tout le temps. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je m'étais fait assez un nom pour que les gens ils me suivent aveuglément. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est hyper intéressant. C'est le moment où, au début, tu te bats. Ensuite, tu es visionnaire ou un truc comme ça, tu te bats un petit peu. Ensuite, à un moment, tu arrives à un espèce de plateau où l'équilibre est parfait. C'est-à-dire que les gens sont curieux, ils sont intéressés, mais ils sont quand même un tout petit peu, ils restent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là. Genre... Et après, tu as la troisième phase ou la quatrième phase, ou je ne sais pas quoi, où tout le monde te dit oui, tout ce que tu fais est génial, tu ne peux pas te tromper. Et là, c'est là que tu deviens con, en fait, parce que tu te perds. Parce que tu n'as plus personne qui dit « Ah non, ça n'a pas marché, ça ne nous plaît pas » et tout ça. Il n'y a plus personne qui push back et tu as l'impression d'être le roi du monde. Donc ça arrive à...
Tu n'avais pas de garde-fou à l'époque.
Tu n'as pas de garde-fou, tout le monde est là « Oui, tout marche bien, oui, c'est parfait. » Et souvent, c'est là que tous les gens qui sont passés par ça, tu perds le contact avec la réalité et c'est dur.
Côté public,
ouais.
Enfin le... T'es lecteur, t'es lectrice. Enfin, je dis lecteur parce que je pense au blog, mais il y avait aussi
les réseaux
sociaux.
Bien sûr, non, mais tu sais, la vérité de ce que je fais, à part justement la marque Dorée et tout, qui est une émanation un peu différente, parce que c'est quelque chose de très concret, moi, l'essence de ce que je fais, c'est d'écrire, en fait, depuis le début. Et ça m'a pris 10 ans ou 15 ans pour me dire, mais c'est ça ton... C'est ça ton vrai talent. Ne
plus
te demande
que
plus.
L'illustration.
Bien sûr,
plus que tout.
Toujours. Je suis meilleure en photo que je suis en illustration, mais je suis bien meilleure pour communiquer avec les gens et écrire que les deux autres choses. Et je dis ça pas parce que par jugement juste de valeur, mais par joie, la joie que ces choses m'apportent, d'écrire et tout ça. Et puis surtout les gens qui ont vraiment connecté avec moi à travers les années, c'est toujours les gens qui me lisent.
Ouais. Ceux qui sont restés, qui sont encore là.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Et tu te posais la question, genre, pourquoi ça a pris avec moi ? Pourquoi ça marche ?
Oui, je pense qu'il y a une... c'est le mystère et la magie d'être au bon moment, au bon endroit, avec assez de soif de vivre et de faire les choses, et puis de frustration. Moi, j'étais quelqu'un de... J'ai grandi en Corse alors que j'avais quand même une vision des choses que je lisais beaucoup de magazines étrangers. Je lisais Heidi, The Face, j'étais toujours très intéressée par les choses branchées, vraiment. Maintenant, je m'en fous un peu, je me disais, mais putain, mais regarde ce qui se passe, comme c'est génial. J'étais vraiment, ça me bouleversait, moi, de lire Heidi, de lire The Face, de voir les... tout ce qui se passait dans la culture. Moi, j'adorais la techno à l'époque. J'adorais, tu vois, Margiela comme des garçons et tout. Je regardais ces trucs, le grunge et tout. Moi, j'ai grandi dans ces années-là. Mais tu peux pas savoir ce que ça crée en moi. Et en même temps, j'étais en Corse. Personne comprenait la mode que j'aimais. Il y avait rien. Donc, je coupais mes jeans pour faire genre, c'était dit comme des garçons et tout, machin. Mes parents voulaient pas que j'étudie l'art ou la communication, quoi, parce que moi, je suis première génération d'immigrés, mais ma mère est née en Algérie. On est des Maroco-Algériens, Italiens, tout ça. Donc, avec quand même une grande peur de la précarité et tout, parce qu'on en sort depuis pas longtemps, tu vois. Donc évidemment, quand j'ai dit, moi, je veux faire créatif, de l'art, ma mère, elle a dit, alors, si tu veux, mais alors pas du tout, quoi. Elle me l'a pas dit comme ça, parce qu'on est quand même un petit peu, il y a un côté un petit peu un télo dans ma famille. Donc on n'explique pas les choses comme ça. Mais malgré tout, c'était ce qui était dit. Et donc, j'avais tellement de frustration, tellement d'envie, que quand ces choses-là sont arrivées, si tu veux, qu'il y a eu tout plusieurs choses qui se sont rencontrées au même moment. Donc, Internet et la technologie qui a permis à quelqu'un qui, quelques années avant, en tant qu'illustrateur, ton travail, c'était très compliqué. Tu faisais des fax pour envoyer et tout. D'un coup, il y a Internet qui arrive. La photo, c'est pareil. La photo street style comme ça a explosé parce qu'on a pu tous commencer à s'acheter des caméras, même si elles étaient assez chères, et transférer nos photos dans la journée. Et tout ça, c'était la technologie, c'est très important. Ça fait bouger des cultures entières. Tu vois, du jour au lendemain, ça peut changer le monde. Et souvent, on dit c'est les blogueurs qui ont créé ça. Mais en fait, il faut regarder tout ce qui se passait autour. J'ai expliqué ça dans l'un de mes podcasts récemment. Des mouvements de société comme ça, ils ne viennent pas de gens comme moi. Ce n'est pas moi qui ai commencé quelque chose. C'est un désir qui existait partout. Et moi, je l'ai incarné à un moment parce que j'étais là au bon moment. Et donc, il y a toutes ces choses qui ont conflué. Je pense qu'il y avait une fatigue, une vraie envie et un désir de mode, mais une fatigue de la manière dont les choses étaient faites avant. Donc, ce qu'on a apporté, moi et tout un groupe de gens, parce que ça aussi, c'est important de dire, on ne fait pas les choses tout seul. Et quand tu me parles de Didi et de Géraldine et tout ça, si j'avais été toute seule, je n'aurais pas pu créer un mouvement. Il s'est trouvé que grâce à ce qui s'est passé, mes talents, je ne sais pas, peut-être parce que je suis partie aux États-Unis et tout, j'ai été peut-être plus connue à un moment, mais ça ne se serait pas fait si j'avais été toute seule. Tu as toujours besoin d'avoir un groupe, et c'est pareil avec le street style, que ce soit avec Scott, que ce soit avec Tommy et tout ça, il y a un truc qui s'est créé. Et là, les gens y voient. Donc, tu as toujours, c'est comme dans les mouvements de musique de rock, le grunge, le rock et tout ça. C'est toujours plusieurs groupes. Et c'est vachement important de reconnaître ça. On n'est pas tout seul. Et après, il y a un moment, ben voilà, on incarne quelque chose peut-être un peu plus que les autres. Et moi, notamment, je me rappelle qu'à l'époque, souvent, j'étais critiquée pour ça. J'ai été critiquée beaucoup, mais parce que je travaillais tout le temps. Ça me plaisait trop.
Ouais.
Et il y avait.
Tu critiquais parce que t'étais partout ?
Parce que je travaillais beaucoup. Je me rappelle qu'il y avait des blogueuses qui avaient dit non, mais Garance, elle fait que ça et tout. Et je me souviens, j'avais pris un peu comme une insulte parce que on n'était pas censé. C'était censé être fun. Tu sais, c'est un peu ce côté français là où ouais, c'est juste un truc que je fais sur le côté. Non, ouais. Non. Tu vois, il y avait ce côté là. Ouais, c'était c'est ça. Faut remettre les choses en contexte. À l'époque, personne n'oserait dire oui, moi je veux que ce soit ma carrière, ouais. J'adore ce que je fais, je suis très sérieuse. Non. Et donc, en fait, si tu donnais un peu plus, moi j'ai tout abandonné pour faire ça, ça me plaisait trop, j'étais dans mon grand kiff et j'ai beaucoup travaillé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un petit peu cette image de la vague en fait. Quand t'es sur une vague, quand tu surfes. On voit jamais dans les vidéos, mais avant d'attraper la vague, il faut comment on dit, faut pédaler, ouais, voilà, à mort. Et moi, j'ai fait ça. J'ai pas fait ça malheureusement, j'avais pas, c'était même pas de l'ambition, mais c'était juste que j'avais été tellement frustrée, je savais pas du tout ce que j'allais faire dans ma vie, j'avais passé mes 20 ans à pleurer en me disant j'ai pas de carrière, j'ai rien qui va se passer et tout ça. Et quand j'ai trouvé quelque chose, j'ai juste kiffé, quoi.
Quel regard tu portes aujourd'hui sur les influenceurs ? Parce que donc, on l'a dit un peu tout à l'heure, à l'époque, il y avait le blog. Moi, en tant que lectrice, il y avait moins de smartphones, en tout cas, l'usage était moins répandu. J'allais le matin, j'ouvrais ma blog-roll, comme
bien
on disait
sûr,
à l'époque, toute ma liste
souviens.
De blogs,
ouais.
Je lisais tout. Et il y en avait qui mettaient sur leur blog le lien vers leur Instagram, et il y en avait quelques-uns qu'on pouvait suivre, mais en fait, la consommation principale, elle était sur Internet, sur une page web, quoi. C'était pas Instagram, et maintenant, tout s'est déporté sur Instagram. Alors, il y a aussi TikTok et tout, mais aujourd'hui, tu scrolles Instagram, t'as de la collab, t'as tout, et à l'époque, c'était hyper différent. T'avais ce côté... un peu naïf, ce qu'on disait, on se prend en photo, ou on prend les copines en photo, on prend les photos des défilés. Ouais. Et aujourd'hui, vraiment, c'est on se markete. Et moi, ça me manque de plus avoir toute la lecture. J'ai l'impression d'être une vieille réac. Mais tu vois, tout ce côté lecture, j'aime bien lire des longues légendes sur Instagram, quoi, quand les gens me racontent une histoire accompagnée d'une photo.
Alors, tu sais que c'est pas du tout pour me promouvoir, même si...
bon, on est là pour ça.
Ouais,
vas-y,
bien sûr, mais tu sais que moi, ça m'a tellement manqué, ce que tu dis. Et puis, à un moment, à un moment, j'ai tout déconstruit. J'aimais plus ce que je faisais, ça me plaisait plus. J'ai tout arrêté. Et quand même, la seule chose qui m'a manqué, c'est d'écrire. Tu vois, on revient quand même à ce thème de l'écriture. Et donc, il y a 2 ans et demi, je crois 3 ans, j'ai lancé une newsletter. Très très vite, ça a pris. Justement, c'est le nombre d'inscrits a commencé à doubler, tripler chaque jour. Et ça m'a angoissée parce que. La nouvelle culture, c'est de se faire critiquer dès qu'on dit quelque chose et tout. Il y a aussi ça qui est arrivé sur le devant de la scène, qui n'était... On avait quelques bad comments, tu vois, quand t'étais blogueuse et puis tu te faisais... Ouais. T'es superficielle, tout ce que tu fais et tout. Mais le vitriol qu'on peut rencontrer aujourd'hui et tout ça. Et ça a commencé à m'angoisser parce que je me suis dit, je veux pas retomber dans le même truc. Donc, j'ai fermé les portes, j'ai fait un abonnement payant,
ouais.
Un abonnement payant pour justement limiter en fait le nombre de gens, mais les gens, ils adorent quoi, et ils se sont inscrits et toutes les 2 semaines en fait j'envoie une longue newsletter qui est exactement dans mon ton d'avant, tu vois, drôle, réfléchi, à réfléchir sur nos corps, nos idées, les phénomènes de société et tout ça. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, ça m'a hyper manqué. D'ailleurs, maintenant, il y a un renouveau des newsletters. Les podcasts prennent aussi cette place. Ce dont tu parles, en fait, c'est les formats longs. En fait, ce qui te manque, c'est ça. Ouais. C'est d'aller profondément dans les choses, d'avoir le temps de parler et tout. Et moi, tu sais, j'ai fait l'erreur pendant un moment de... J'étais désespérée. Alors moi, quand Instagram est arrivé, ça ne me correspondait mais tellement pas, mais alors à tellement de niveaux. Non seulement le fait de se mettre en scène, c'était pas quelque chose qui était naturel pour moi, parce que moi j'étais intéressée à photographier les autres. Et là, soudain, ça collait plus. Enfin, je vais pas t'expliquer dans les détails parce que tu connais, mais c'était plus ça. Et puis les gens voulaient me voir et tout. Et puis j'avais un moment où j'arrivais pas à résister au public. Maintenant, je résiste. Tu vois, je me dis non, qu'est-ce que je veux moi faire, pas qu'est-ce que les gens veulent. Et donc Instagram est arrivé, a pris le devant de la scène, a tout changé. Et moi, pendant quelques temps, je me suis dit non, mais il faut que j'adapte mon travail à Instagram. Quelle connerie j'ai faite. Parce que le format Instagram ne colle pas du tout avec le genre de pensée que j'ai, de conversation, d'envie et tout. Et donc j'ai essayé de réduire mon écriture à, 2500 caractères, et à me dire je vais écrire des short posts comme ça pour Instagram et faire mes photos et faire mon travail de blogging en micro-blogging. Et puis voilà, si jamais je ferais différente. Mais c'était horrible quoi, ça ne correspondait pas du tout et tout ça. Donc, je pense qu'il faut arriver aujourd'hui, il faut arrêter ce que j'ai fait la connerie, donc faut arrêter de s'instrumentaliser pour, il faut choisir ses médiums et des médiums qui nous plaisent et qui nous correspondent le plus, je pense. Après, évidemment, on a tous besoin d'une présence sur Instagram et tout, mais qu'est-ce qu'on y fait, comment on parle des choses et tout, c'est hyper important d'être très conscient en fait de ce qu'on veut faire. On a changé d'époque, justement la naïveté dont tu parles, elle est complètement partie, quoi, c'est fini.
Mais alors, c'est marrant ce que tu dis sur le fait que t'aimes pas te mettre en scène, mais j'ai un souvenir d'une story que t'as faite il y a peut-être 2 ans.
Ouais.
Qui m'a vachement marqué.
Ouais.
Tu vois, pour que je m'en rappelle.
Ouais.
T'es en Corse, je pense que c'est en hiver.
Ouais.
Et tu prends une voiture.
Ouais.
et tu vas te baigner.
Oui, 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 je me souviens très bien.
Ouais, et je t'avais jamais vu comme ça.
Ouais.
Tu vois, et tu montrais. Et alors, moi, ça me fascine, tu vois. Et ouais. En fait, alors, c'est pas de l'écriture, mais c'est une écriture, tu vois, c'est
oui,
une écriture
oui, oui.
filmée.
Ouais.
Et j'avais trouvé ça super, tu vois, tu racontes. On sentait que t'étais très contente de retourner là parce que je pense qu'on sortait de beaucoup de confinement où on était ouais. tous un peu éloignés de chez nous. Et je me suis dit, ah, j'aimerais bien en voir plus des choses
ouais.
comme ça, tu vois,
ouais.
t'avais ce côté. Naïf de l'enfance parce que c'était un peu la garance enfant tu
ouais,
vois, que tu
ouais.
montrais parce que t'étais chez toi en Corse où ouais. t'avais grandi ou tu vas te baigner alors que c'est l'hiver
ouais.
tu vois j'avais adoré et tu t'avais montré un peu les gens je sais plus si c'était des commerçants ou des restaurateurs
ouais, ouais. Oui,
tu vois
oui,
et
oui,
je me suis dit
ouais.
c'est bien genre j'aime
ouais.
bien voir ça en fait
ouais.
genre ça montre autre chose tu te racontes différemment avec ton enfance j'avais trouvé ça hyper touchant
ouais ah merci c'est gentil ouais. C'est très compliqué, c'est-à-dire que ça, c'est genre à un moment, t'as un hasard, ça tombe bien, t'as ça. Mais j'ai trouvé, sinon, qu'à chaque fois que j'essayais de me mettre en scène, parce que là, c'était pas une mise en scène, justement, mais ce genre de truc, c'est très difficile de garder la fraîcheur. Si tu commences à en faire un thing, et ça, c'est toujours le truc... on parle aujourd'hui, ce qu'on appelle en anglais, les niches. Tu sais, ça veut dire quel est ton truc sur, quel est ton sujet sur Instagram par exemple,
ouais.
Sur les réseaux sociaux. Quel est ton sujet? Alors par exemple, moi avant j'avais la mode, ouais. la mode, les blogs. Enfin voilà, tu vois un peu de voyage, un peu de trucs comme ça. Si d'un coup ma niche, ça devient des vidéos candides sur ma vie. Tu vas faire 3 vidéos candides sur ta vie qui vont hyper bien marcher, où c'est frais, où c'est nouveau et tout. Et ensuite, ça devient un système.
Ouais.
Et quand ça devient un système, tu es obligé non seulement de chercher la nouveauté tout le temps. Donc, il faut que je m'envoie moi-même sur des aventures. Tu vois, genre, allez, aujourd'hui, je vais essayer 3 studios de yoga ou un truc comme ça. Et là, ça devient un job. Et là, il faut choisir, il faut se dire, est-ce que j'ai envie que ça peut être un très bon job, mais est-ce que j'ai envie que ce soit mon job? Et ça, quand il s'agit de me mettre en scène, j'ai toujours un problème, j'arrive pas à en faire mon job. C'est-à-dire que t'inquiète pas que parfois, je m'étais dit, mais ce serait tellement bien, il faudrait que je fasse ça, les gens adorent. Et c'est ce que je te disais un petit peu plus au début du podcast, c'est qu'il faut résister à ça. Il faut savoir qu'est-ce qui va, moi, me remplir de joie, de créativité et tout ça. Et je pense qu'avec la maturité, j'arrive un peu plus à savoir. D'une part, par exemple, mon mari, il n'a pas envie d'être sur Instagram tout le temps. Moi, je n'ai pas non plus envie de l'y mettre. Et puis, je trouve que c'est très dangereux, en fait, de mélanger tout ça. Je l'ai fait et j'ai fait les erreurs et donc je le sais. Ma famille, c'est la même chose. Et surtout, j'écoutais une fille, je ne sais pas si tu connais Emma Chamberlain.
Ouais.
J'écoutais un petit peu ce qu'elle disait. Elle a 20 ans et elle faisait ça. Elle faisait des vlogs en fait sur YouTube. Et elle dit, mais c'était horrible. J'étais avec mes potes et je pensais, bon, il faut que je les filme, il faut que je crée une situation et tout. Et ça, j'avais compris assez vite que moi, ça allait me détruire mon âme. Et donc, voilà. Et ça, donc, voilà, ça peut être facile une fois ou deux. Et après, ça devient un job, un système et tout
ouais.
ça. Et c'est difficile. Donc, il faut vraiment adorer. Par exemple, tu vois, le podcast que j'ai lancé, là, le rendez-vous, j'ai vachement réfléchi avant de le faire. Parce que pendant longtemps, j'avais un podcast comme le tien où j'interviewais des gens. Et ensuite, quand c'est devenu un système et un job, alors, on cherchait les gens les plus connus. On cherchait, tu sais, parce que c'est comme ouais. ça, tu finis, tu vois, ah ouais, je vais avoir machin, je sais pas, Scarlett Johansson, génial et tout. Au bout d'un moment, tu te regardes et puis tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle a à me raconter, Scarlett Johansson, qui va vraiment m'intéresser? Et c'était le projet était devenu creux au bout d'un moment, c'était devenu un... Et je me suis dit, non, j'ai envie d'inviter des gens sur mon podcast, je peux, mais il faut vraiment qu'il y ait un sujet et tout ça,
ouais.
j'ai pas envie juste de le faire. Et je me suis dit, en fait... je vais parler toute seule parce que déjà, bah, tu vois, j'ai pas de problème.
Oui.
Tu peux me donner un micro et c'est bon. Mais j'avais aussi envie de faire la chose qui me semble la plus naturelle possible pour que ça ne devienne jamais un job si possible. C'est comme l'écriture.
Ouais.
Pour moi, ça ne deviendra jamais un job. C'est-à-dire que c'est un job dans le sens où je me mets devant ma page blanche et je sais qu'il faut que j'écrive. Mais jamais je ne mens. Jamais je ne crée une situation, il y a aucun, ça vient direct de l'inspiration du ciel dans ma tête et sur la page. Et donc j'essaye de créer dans ma vie des choses un peu pures comme ça, et après d'essayer de les servir par les choses qu'on est tous obligés de faire, les médias sociaux et tout, mais en essayant de gérer ça assez, de manière intelligente pour pas me donner des choses de moi que j'ai pas envie. C'est pas que j'ai pas envie de les donner, mais c'est que j'ai pas envie de les rendre moisis en fait en y mettant du profit, parce que tu sais il y a tout ça derrière. Ouais. Jamais, tu vois, dans ma vie privée, faut surtout pas faire ça.
Et est-ce que c'est pour ça que t'es partie, donc là on était à New York, hein, on a digressé, t'es partie à Los Angeles, enfin tu t'es éloignée aussi de la mode, tout ça, ça devenait un système où, dans lequel tu t'épanouissais plus, tu te reconnaissais plus.
C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est cette idée que les choses deviennent un système. Et moi, en fait, quand j'ai commencé dans la mode, ce dont j'avais envie de parler, c'était des gens de la rue, comment s'habiller dans la rue, comment utiliser un jean de 2500 différentes manières. Je disais toujours dans les interviews que ma tenue préférée, et toujours aujourd'hui, c'est un beau jean et un beau t-shirt blanc. Pour moi, c'était ça la mode. C'était les vrais gens, quoi. C'était dans la rue, c'était les vrais corps, c'était l'expression personnelle et tout. Comme je te disais, je venais de ces époques de The Face ID où vraiment il y avait le côté un peu rebelle, tout ça et tout. Et puis je suis devenue partie. Je suis passée en fait de outsider à complètement insider,
ouais,
c'est-à-dire pas plus insider que ça, c'est-à-dire que je recevais des millions de fringues tous les jours, j'étais invitée partout et j'ai perdu ma passion, c'est-à-dire qu'en fait c'est même pas une passion que j'avais pour la mode, c'est que j'ai été projetée là-dedans et là j'ai perdu mon contact avec moi-même, je sais pas si je l'avais vraiment déjà eu, mais où en fait j'écoutais ce qu'on me disait de l'extérieur, parce que moi j'étais pas heureuse là-dedans, ça n'a jamais été mon vocabulaire, et je l'ai fait pendant un moment parce qu'il y a une beauté dans tout ça, c'est-à-dire que moi-même j'étais capable de le voir, que tous ces défilés c'était sublime, que tous ces vêtements c'était sublime, que ces femmes tellement bien habillées c'était sublime, et je coupais le message que c'était pas pour moi, c'est-à-dire que oui c'était sublime, mais ça voulait pas dire qu'il fallait que j'y sois ou que je le fasse. C'est comme les gens qui peuvent avoir le meilleur job du monde que tout le monde veut, et moi c'était ça, j'avais le job que tout le monde voulait et moi j'étais malheureuse en fait, j'étais pas bien, je faisais la promotion de choses qui me parlaient pas directement. Alors, encore une fois, c'était pas du mensonge de ma part, c'était pas un manque d'honnêteté, c'était un problème de connexion avec moi-même. Je me disais, bon, moi, je suis pas bien, mais je devrais être bien, il faut que je sois bien parce que j'ai la chance. Et tout le monde, à chaque fois, je disais, mais moi, je suis pas bien là, j'aime pas les défilés, je suis timide en fait. Voilà, il y avait tout ça. Et tout le monde me disait, mais ça va pas la tête? T'as vu la place que tu t'es fait dans ce monde tellement difficile d'accès, mais ne lâche jamais ça, tu retrouveras jamais ta place, c'est dur. Et ils avaient raison, tout était vrai. Mais ça n'empêche pas que quand on souffre quelque part, moi en tout cas, et il y a plein de gens qui souffrent dans la mode, mais c'est dur d'arrêter ça, surtout quand tout est payé, qu'on reçoit ouais. tout et tout, c'est très violent. Moi ça a été heureusement j'avais d'autres problèmes au même moment, donc du coup ça a déviolentisé, mais c'était dur quoi, quand on commence quand au début on a une certaine fierté du fait de dire non, de dire non merci, non merci, non merci, et puis ensuite quand le téléphone ne sonne plus, qu'on savait très bien qu'il allait ouais. arriver. Et que, parce que chaque chose qui s'arrête, on ne peut pas sauter d'un cheval à l'autre comme ça. Si on veut être honnête avec soi-même, il faut avoir une période de merde une fois qu'on a arrêté quelque chose. C'est comme un break-up, c'est comme quand on rompt avec un amoureux. Si on se met tout de suite dans une autre histoire, on ne sait pas finalement si cette histoire, c'était ce qu'on voulait vraiment, ce qui nous correspond et tout ça. Donc je savais inconsciemment et aussi consciemment d'ailleurs, qu'après avoir arrêté la mode, il allait falloir que je fasse, que je regarde un peu ma vie en face, quoi, et me dire, bon, qu'est-ce que tu veux maintenant que tu n'as plus rien, presque, ouais. voilà. Après, il y a des manières différentes. Moi, je me suis mise en danger, je pense que j'en avais besoin, et puis je pense que j'étais tellement épuisée en burn-out de tout ça, que de toute façon, j'aurais jamais rien pu construire sur ce terrain-là. Il fallait que je laisse la terre reposer un bon hiver, pleurer un peu. Enfin, pleurer, c'est figuratif. Mais, et donc, il m'a fallu cette période, en fait, de calme, de regarder en arrière, de n'avoir aucune ambition pour un moment et tout ça. Et de pouvoir, puisque ta question c'était sur la mode, de pouvoir réétablir un contact avec la mode qui était quelque chose de plus personnel. Et puis avec la créativité, puis avec ma présence sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc de re-questionner tout ça. Et c'est très difficile à faire. Mais j'en sors là petit à petit puisque tu me vois en face de toi.
Ouais. Mais c'est une période aussi où tu as pris la parole sur des sujets... le burn-out, tu l'as dit, la maternité, sur des sujets un peu différents. Et c'est comme si tu accompagnais l'électrice, tu vois, elle a grandi avec toi et tu l'accompagnes dans plein de phases de la vie et tu as ce côté copine.
Jusqu'à la mort.
Voilà. Non, mais c'est ça, où tu te dis, bah, c'est agréable d'entendre des gens parler de tout et pas montrer que le côté incroyable, regarder les réseaux sociaux comme ma vie est magnifique.
Mais tu ne trouves pas que, en même temps, alors moi j'ai fait très attention, enfin j'ai pas fait justement, c'est un sujet hyper passionnant ce que tu es en train de dire, parce que en même temps ces dernières années, je sais pas si c'est pareil en France, il y a une espèce de propension à overshare, à raconter, parce qu'en fait ça apporte la sympathie sur les réseaux sociaux.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Et alors moi je me souviens très bien ce à quoi tu fais référence, parce que j'ai parlé de mes problèmes de fertilité sur Leni Letter il y a 6 ans, 7 ans. Et après ça, j'ai complètement arrêté d'en parler parce que je ne voulais pas que ça devienne mon sujet. Encore une fois, cette niche, tu sais, où les gens après te posent des questions sur tout. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on a un gros problème, c'est que tout le monde devient un expert en tout. C'est-à-dire, tu fais un régime qui marche, d'un coup, tu deviens expert santé. Tu sais, maintenant, il y a des nanas qui font du développement personnel. Ça devient des coachs et elle te donne des conseils de tous les côtés. Alors, je comprends, tu vois, quand il y a des voies qui s'ouvrent, il y a toujours des gens qui s'engouffrent dedans et s'il y a des gens qui font ça très bien et tout ça. Mais moi, ça m'a fait peur, ça, en fait. Et quand j'ai parlé de ma dépression aussi, j'ai parlé de plusieurs choses comme ça parce que j'aime écrire, donc je veux raconter des histoires et je veux raconter ces choses-là. Mais j'ai toujours fait attention à ne pas me coller des étiquettes. Je me suis dit, putain, parce que c'est des moments, c'est des passages de vie. Ça ne fait ni de moi une professionnelle de la dépression ou de toutes les choses que les gens... tu vois, que toutes les étapes de la vie d'une femme. Hein. Ça ne fait ni de moi une professionnelle ou une experte là-dessus, et ni ça m'enferme dans cette chose-là. Ma dépression ne me définit pas, ça a été 2 ans de ma vie. Et donc, c'est aussi quelque chose, ça fait aussi partie des écueils et des pièges dans lesquels j'ai dû me poser beaucoup de questions, parce que quand ces choses-là étaient mises online, il y avait tellement d'intérêt, j'aurais pu écrire des livres, être sur des millions de podcasts et tout ça, et il fallait être assez quand même clairvoyant pour dire non. Et ne pas s'engouffrer dans
ces
choses-là. De me dire, ben, c'était. Là, tu vois, je pense que je commençais à développer une certaine conscience de moi et de me dire, protège-toi. Tu peux parler, parce que justement, moi, j'ai une grande confiance dans ma capacité à écrire sans. Comment expliquer ça ? Sans abuser de mon intimité pour en faire quelque chose. Sur les réseaux et pour je sais les limites quand il s'agit de l'écriture, mais après et donc je savais que je pouvais écrire une histoire sur l'infertilité, par exemple, enfin une histoire, c'est une mauvaise traduction du français, écrire un article sur l'infertilité, mais après c'est tout, quoi. Voilà. Et donc ça aussi, c'est une des choses aujourd'hui. Tu me parlais des influenceurs. Finalement, je crois qu'on n'en a pas tant parlé que ça. Mais c'est aussi quelque chose où il faut faire attention. On vit dans un moment où on est encouragé, en fait, à partager des choses, finalement, qu'on ne comprend pas, finalement, soi-même. Et tout le monde est un expert sur tout. Et il y a des gourous de tous les côtés et tout ça. Il faut faire un peu gaffe, je pense. Et moi, je n'ai jamais voulu devenir ça. Et finalement... Ça évidemment ralentit ma célébrité ou ce que tu veux, comment on appelle ça, la progression de ma personne publique et tout ça, parce que j'ai refusé. Et encore aujourd'hui, tu vois, sur mon Instagram, maintenant, je poste presque plus que des citations, des extraits de mes écrits. C'est aussi une manière de me protéger et puis de faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire d'écrire. Mais ce n'est pas des leçons de vie, c'est des moments drôles, c'est ce qu'un écrivain partage dans ses livres, quoi, en général. Donc voilà, un petit peu long chemin pour te dire un petit peu comment je vois les choses aujourd'hui sur
Et alors mode. Justement, aujourd'hui, c'est quoi l'histoire que tu écris ? Donc il y a Doré.
Donc Doré est venu justement après cette période de vide et de rien. On a décidé en... À la fin, juste avant le Covid en fait, donc ça quoi, fin 2019,
ouais.
On a décidé de tout arrêter avec Émilie. On est allé faire une retraite de silence. Toutes les deux, on est très amies, on a un rapport presque petite sœur, grande sœur, elle est plus jeune que moi. Et on s'adore, et on s'est dit, on part, on va faire une retraite de silence. Et après la retraite de silence, moi j'avais déjà déménagé à Los Angeles, elle était encore à New York, et on s'est dit, on arrête... Doré, Atelier Doré, comme c'était, le blog et tout ça, on arrête, on en a marre, on arrête. Et donc après, bon, c'était, tu sais, on n'arrête pas du jour au lendemain comme ça, évidemment, on fait par... Et là, c'était vraiment comme silence, soudain. Plus rien à faire, je n'écrivais plus, j'avais pas encore ma newsletter, ça faisait longtemps que je n'écrivais plus sur le blog, pour plein de raisons, mais sinon ce podcast va durer 10 heures. Donc, et là, silence complet, on a pris un peu moins d'une année. Et là est né en fait Doré. Et en fait, c'est très intéressant pour moi parce que Doré, c'est un projet tellement focus, tellement clair, tellement évident, tellement limpide par rapport à tout ce qu'on avait fait avant, qui était une espèce de duplication de mon travail créatif, qui est le contraire. Le travail créatif, souvent, ça part dans tous les sens. C'est très difficile. C'est un peu comme un cheval fou. C'est très difficile à contrôler. Alors qu'une marque de beauté telle que celle que... tel que Doré, si tu vois, ne serait-ce que par sa couleur, par son message, c'est c'est très directionnel, c'est très clair. Et j'avais besoin, en fait, de ce sens de la structure. Et à côté, moi, évidemment, j'ai toujours mes écrits et tout ça. Et si tu veux, pour moi, avoir cette espèce de séparation un petit peu entre un côté plus business et un côté plus artistique, c'est beaucoup plus intéressant et joyeux que de mélanger tout ça et d'essayer de faire de mon art, enfin de mon art, c'est un peu prétentieux, mais de mes talents artistiques, un business. Ça, de ce côté-là, c'est fini.
Est-ce que c'est une manière, avec du skincare, de faire peau neuve dans ta vie ?
Mais bien sûr, ouais, je pense que c'est très bien dit. oui, il y a ce côté. Puis Doré, c'est un retour aux essentiels aussi. On a voulu aussi nettoyer un peu la routine, tu sais, parce qu'on commençait à avoir tellement... on en était à 18 produits par soirée, tu sais, ouais. On voyait tous les tutos. Et moi, j'ai jamais été comme ça. J'ai toujours vachement voyagé. J'aime pas transporter 10 milliards de trucs et j'aime les produits qui sont hyper versatiles, tu vois, où tu peux faire plein de choses avec un produit. Et c'est ce que Milly m'a dit. Elle m'a dit, mais tu sais exactement ce que tu veux en beauté. C'est très simple. On va créer ça, parce qu'en fait, je cherchais ces produits, la crème parfaite, la crème de jour parfaite et tout ça, et j'arrivais jamais vraiment à trouver. Déjà parce qu'on avait des exigences au niveau de la clean beauty,
oui, clean beauty.
Parce qu'en fait, c'est ça aussi.
On le dit en français.
C'est qu'il y a tellement de trucs de mots français, de mots anglais en français que c'est pas toujours du Jean-Claude Van Damme. Et on avait de telles exigences qu'on ne trouvait pas les produits qu'on voulait. Et Émilie a dit, on va les faire. Et c'est comme ça que ça a commencé. Oui.
Donc, tu as appris un nouveau métier.
Et je suis en train d'apprendre un nouveau métier tous les jours. Et c'est beaucoup de challenge. Mais comme je te disais, quand tes challenges ne sont pas mélangés autant avec tes émotions et ton paysage émotionnel, ta vie, ce que j'avais fait avant, c'est-à-dire de tisser ma vie personnelle avec ma vie professionnelle, c'était trop compliqué. Doré, c'est pas ma vie personnelle. C'est mon point de vue, c'est mon idée de la beauté, c'est une idée de libération du temps des femmes, tu vois, parce que notre idée, c'est quand même de passer un peu moins de temps dans sa salle de bain pour aller vers la vie. Et tout ça, c'est mes idées, mais c'est pas ma vie personnelle. Et ça, c'est très libérateur. Donc oui, vraiment, il y a une vraie volonté... de sortir de tout ça avec une peau neuve et d'apporter quelque chose aux femmes qui soit aux femmes et aux hommes d'ailleurs, parce que c'est complètement unisexe, qui soit un pur projet créatif, quoi, comme ça.
Dernière question, parce que l'heure tourne.
Ouais.
Si on me demande, elle fait quoi, Garance, aujourd'hui ? Qu'est-ce que je réponds ?
Ah, très bonne question. Alors, Garance, elle a lancé une marque de beauté qui s'appelle Doré, et elle continue d'écrire, et elle travaille sur ses écrits.
Eh bien, on va aller lire.
Voilà.
Et on va essayer les produits Doré.
Merci beaucoup.
Merci, Garance.
Mais je t'en prie.
Elle débriefe.
Elle débriefe. Retrouvez tous les épisodes de Elle débriefe en ligne sur les plateformes.
Élodie Petit et Elisa Casson de Elle
décryptent l'actualité la plus futile avec tout le sérieux qu'elle mérite.
Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.